Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent.
L'Iran qui a lancé une attaque contre Israël, plus de 300 drones et missiles, et avec l'aide des États-Unis, ben Israël dit avoir bloqué 99% des tirs. C'est une attaque qui vient en réplique à la frappe d'Israël le 1er avril 2024 envers le consulat iranien à Damas. Israël a promis une riposte alors que la communauté internationale en appelle à une désescalade. Pour nous aider à bien comprendre ce qui se passe, Ferry de Kerckhove est un ancien ambassadeur du Canada. Bonjour, Monsieur de Kerckhove.
Bonjour.
Est-ce qu'on doit craindre une escalade au Moyen-Orient à la suite de ce plus récent épisode de violence?
On ne peut jamais ne pas craindre une explosion de violence au Moyen-Orient. Et pour l'instant, on sait qu'il y a des grands débats au sein du cabinet israélien. On sait que du côté de Netanyahou, il y a toujours cette espèce de volonté de continuer une guerre quelle qu'elle soit, dans quel que soit l'endroit, dans la mesure où tant qu'il est en guerre, tant qu'il est contre le Hamas, contre l'Iran, il ne perd pas sa place et il n'est pas traduit en justice. Je sais que ça a l'air très petit de parler de cet événement-là plutôt que l'état de la situation au Moyen-Orient, mais malheureusement, politique oblige. Mais cela dit, la communauté internationale, très unis pour faire en sorte, en espérant qu'il n'y ait pas une riposte. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après quand même deux réunions de longue durée du cabinet, il n'y a pas encore de décision très claire. Alors, est-ce que la pression internationale peut jouer? Biden a dit, écoute mon vieux, t'as gagné, il n'y a pas une seule victime, il y a quelqu'un qui a peut-être un tout petit peu de victime, encaisse ta victoire et laisse faire, parce que sinon, si tu ripostes sur l'Iran, ça va monter en épingle, parce que le régime iranien ne va certainement pas se laisser faire s'il y a une contre-attaque iranienne. Alors, la situation est profondément tendue. D'ailleurs, ce qu'il faut très souvent faire, c'est regarder le cours du pétrole, compte tenu que 20% de la production internationale passe par le détroit d'Ormuz que les Iraniens contrôlent. Alors, est-ce qu'il y a une flambée des prix? Pour l'instant, c'est stable, mais ça pourrait arriver très rapidement. Donc, la situation est doublement tendue parce qu'à Gaza, il n'y a pas de progrès. On continue à tuer sans merci la population des Gazouis. Il n'y a pas de véritable cessez-le-feu. Et toutes ces discussions-là ont été mises évidemment de côté compte tenu de la question iranienne qui est au fond encore beaucoup plus fondamentale.
Sur le front diplomatique, bon, il y avait certaines fissures au cours des dernières semaines, notamment des alliés très précieux comme les États-Unis qui se remettaient en doute, disons, certaines décisions de la part d'Israël. Or, ce qu'on a vu au cours de la fin de semaine, M. de Kerckhove, c'est une condamnation pratiquement unanime, que ce soit bon, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, même le Canada également, de cette attaque de l'Iran contre Israël.
Absolument. Et d'ailleurs, personne n'a rappelé le fait que l'attaque israélienne contre le consulat iranien en Syrie est une violation fondamentale du droit international. Cette dimension-là a été totalement évacuée. On ne pense qu'à l'Iran, l'empire du mal, comme disait à l'époque George Bush le fils. Alors, c'est certain qu'il y a une unanimité, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, d'ailleurs on l'a vu dans le contexte du G7, que cette unanimité est également sert à calmer le jeu du côté de Netanyahou. On dit, Bibi, on est tous derrière toi, ne commence pas à faire des conneries, pardonnez-moi l'expression. Et je crois que c'est là où l'unité est forte, et ce n'est pas pour rien que Meloni avait demandé une réunion du G7, qui a quand même une influence un peu plus grande qu'un seul, même si ce n'est que Biden. Alors, la situation reste quand même terriblement tendue, parce que s'il y a une riposte israélienne, à ce moment-là, je ne sais pas où ça ira. Il faut se rappeler quand même deux, trois choses. Premièrement, l'Iran n'est pas un ami des pays arabes, mais les pays arabes ont été très clairs. Ils ont dit, écoutez, si ça continue, tous ces beaux accords d'Abraham, etc., tout ça est remis en cause. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi d'escamoter ce qui se passe à Gaza. Il n'y a toujours pas de trêve et il n'y a rien à faire. Il faut comprendre que pour les pays arabes, la situation de Gaza et des Gazouis, elle est fondamentale. L'absence de la création d'un État palestinien reste quand même la pierre d'achoppement principale que l'Arabie saoudite met de l'avant et il n'y a absolument aucun progrès. Bien au contraire, on s'est rendu compte depuis le début de la crise que l'idée même de deux États vivant côte à côte, les Israéliens maintenant le disent carrément, il n'en est pas question, et les Smotrich, les Ben-Gvir, qui sont les membres fascistes du gouvernement de Netanyahou, ne demandent qu'une chose, c'est d'étendre la colonisation en Cisjordanie, et il se passe tous les jours des choses horribles en Cisjordanie, avec les colons qui s'emparent de plus en plus de terres et qui tuent littéralement des Palestiniens. Alors, il y a une flambée interne, il y a Gaza, et puis il y a la menace iranienne. Vous voulez une concoction encore plus explosive? Je n'en connais pas.
Et si Netanyahou fait à sa tête et décide de répliquer, et là on a déjà eu les mises en garde de l'Iran en disant attention, nous on peut aller plus loin tout dépendant de ce que vous allez faire. S'il y a un embrasement, quelles seraient, en fonction de votre expérience, les conséquences mondiales? Nous on regarde ça à l'autre bout du monde, on pourrait être affecté nous aussi.
On pourrait être affecté dans la mesure où, je ne sais pas s'il y aurait des forces de maintien de la paix parce qu'il n'y a pas de paix à maintenir pour l'instant. J'ai parlé de la flambée des prix du pétrole, mais c'est toute la déstabilisation du Moyen-Orient. C'est l'effondrement de ce que Trump et Biden ont essayé de construire entre les pays arabes et Israël, et avec quand même un pays, l'Iran, qui est totalement imprévisible et qui ne se laissera certainement pas avoir. L'Iran a dit qu'ils avaient bien plus à lancer sur Israël que ce qu'ils ont fait. Oui et non, dans la mesure où quand même, il faut remarquer que le système de défense anti-aérien avec l'aide des Américains a été exceptionnel. C'est quand même extraordinaire qu'au fond de nos jours, on arrive à éliminer des centaines de missiles, de drones, etc. Mais je crois que l'Iran est prêt à en découdre tout en sachant que ça leur coûtera très cher. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que les Smotrich, les Ben-Gvir, le gouvernement israélien le plus fasciste qui soit ou le plus de droite qui soit, est-ce qu'ils sont prêts à attaquer l'Iran, c'est-à-dire à débouter par exemple Natanz et les différents centres nucléaires parce que on sait que l'Iran est peut-être quoi à 3 mois, 6 mois d'une bombe nucléaire s'ils le vont. Pour l'instant, ils ont mis ça de côté parce qu'ils avaient d'autres choses à faire, mais la bombe nucléaire iranienne n'est pas finie. Or, le jour où il y aura une preuve que vraiment là ils sont à 3 jours, je puis dire, de la possession du monde, les Israéliens vont bombarder Natanz, enfin les trois endroits et les centrales en gestation. Alors là, la situation peut être encore beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Pas rassurant tout ça. Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur du Canada, merci beaucoup pour vos explications.
Avec plaisir. À la prochaine.